Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. L'opposition veut contester par tous les moyens démocratiques possibles. En RDC, le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, accuse l'opposant Moïse Katumbi d'être un fugitif. Au Bénin, la caution pour être candidat à la présidence risque de monter à 250 millions de francs CFA. Et puis, sa voix était inimitable. Aretha Franklin, la reine de la soul américaine, nous a quittés. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, avec 67,17% des voix, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été élu pour un second mandat à la tête du Mali. Parti favori, Ibeka a 5 années supplémentaires pour tenter de contrer la menace terroriste. Sa victoire est célébrée par ses partisans, mais l'opposition veut contester les résultats par tous les moyens démocratiques. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
La salle sursaut national a refusé du monde. Tout le monde voulait être témoin de la proclamation des résultats provisoires. Mohamed Ag Erlaf, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation.
Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, 67,17% des suffrages exprimés. Monsieur Soumaïla Cissé, 32,83% des suffrages exprimés.
Mahamadou Camara, porte-parole du candidat Ibeka.
Il a eu l'occasion de présenter son bilan malien qui est positif, mais aussi d'expliquer le sens de cette candidature, c'est-à-dire aller plus loin. Donc il a été entendu, nous en sommes très heureux. Nous remercions tous les Maliens qui ont voté pour lui et au-delà des Maliens qui ont voté pour lui, l'ensemble du peuple malien.
Depuis le début de la semaine, le camp Soumaïla Cissé avait rejeté ses résultats. Thieblin Dramé, directeur de campagne du candidat Soumaïla Cissé.
Sans surprise, le ministre chargé des élections a rendu public des résultats, entre guillemets, provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce sont leurs résultats. Ils ne reflètent pas la vérité des urnes, ils ne reflètent pas le vote des Maliens. Ces résultats publiés par le camp du président sortant résultent d'un trucage monstrueux, d'une manipulation du suffrage des Maliens, d'un bourrage d'urnes d'une autre époque.
Il reste à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs ou confirmer les chiffres provisoirement proclamés par le ministère de l'administration territoriale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
À l'approche de la Tabaski, les autorités du Niger veulent prévenir la consommation excessive de bois. À l'occasion de cette grande fête musulmane prévue mercredi prochain, 395 000 moutons vont être sacrifiés à Niamey et 48 000 tonnes de bois vont être utilisées pour les besoins énergétiques en une seule journée. C'est bien sûr le colonel Oumarou Alou, directeur de l'environnement de la région, qui s'inquiète de cette surconsommation. Et pour éviter les abus, des patrouilles vont contrôler les quantités de bois qui vont entrer dans la capitale pour intercepter les cargaisons transportées frauduleusement par camion à dos d'âne ou de dromadaire. Niger toujours, plus de 17 000 personnes déplacées ont été enregistrées depuis janvier dans l'ouest du pays selon l'ONU, dans une zone instable frontalière du Mali, théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes. Un cordon humanitaire négocié avec la force conjointe du G5 Sahel a permis au Programme alimentaire mondial et à des ONG d'acheminer fin juillet près de 100 000 tonnes de vivres dans ces deux localités de cette zone rouge. Au Tchad, l'ex-chef rebelle Abdelkader Babalade, emprisonné depuis 2015 dans son pays, sera bientôt jugé selon les déclarations du ministre de la Justice. Abdelkader Babalade devrait être transféré d'une prison du centre vers N'Djamena pour son jugement et des soins. L'opposition togolaise s'exprime enfin sur la feuille de route de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La coalition des 14 partis de l'opposition soumet un mémorandum dans lequel elle fait ses propres propositions à intégrer la feuille de route de la CEDEAO en insistant sur le registre électoral biométrique intégral. Le point à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
La coalition des 14 partis de l'opposition fait savoir que sa participation aux prochaines législatives annoncées pour le 20 décembre prochain est tributaire des différentes réformes, notamment la révision intégrale du fichier électoral. L'opposition exige donc la réalisation du recensement électoral biométrique. Cette opération devra être couplée à des audiences foraines pour la délivrance des cartes d'identité nationale aux électeurs qui n'en disposent pas. Car, estime la coalition, le gouvernement se sert des enrôlements sur témoignage pour inscrire des mineurs sur les listes électorales. Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la C14.
Il y a des mineurs qui sont enrôlés pour gonfler la liste électorale. Il y a eu des partenaires pour soutenir un programme de délivrance de cartes d'identité, mais le régime n'en a pas voulu parce que ça le priverait d'un moyen important de fraude.
En 2015, le rapport de l'OIF a établi que 72% des électeurs ont été enregistrés dans le fichier électoral sur la base de témoignages. La coalition a également fait des propositions sur la recomposition de la Cour constitutionnelle et sur le renforcement du processus électoral. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En RDC, le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, a déclaré que le parquet général avait émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Moïse Katumbi. L'opposant congolais affirme qu'il a été empêché de rentrer par la Zambie les 3 et 4 août pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Pour le ministre, M. Katumbi est un fugitif qui n'a jamais voulu rentrer en RDC où il serait arrêté. Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire, nous en dit plus.
C'est juste un show médiatique qu'il voulait car n'ayant jamais demandé l'autorisation de descendre à Lubumbashi, a dit Alexis Tambwe Mwamba au sujet de Moïse Katumbi. Le mandat d'arrêt international contre lui reste en vigueur. Les policiers l'attendaient du côté de la RDC pour l'arrêter. Il n'est jamais venu à poursuivre le ministre congolais de la Justice, répondant à la question d'une journaliste. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse organisée par le Front commun pour le Congo. Néhémie Mouilagna, le directeur de cabinet du président Kabila, qu'entourait quelques ministres cadres de cette coalition, a salué le choix porté par Joseph Kabila sur Ramazani Shadary comme candidat du FCC à la présidentielle et a appelé la population à soutenir et à voter pour le programme du FCC que portera le candidat Shadary. Il a par ailleurs rappelé que la RDC va totalement s'assumer en ce qui concerne l'organisation matérielle et logistique des élections. En clair, le gouvernement congolais ne s'attend à aucune aide extérieure concernant les scrutins du 23 décembre prochain. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Par ailleurs, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été interpellé par le parti historique de l'opposition congolais pour avoir rencontré Emmanuel Ramadzi Shadary, le candidat de la majorité à la présidentielle, pendant sa visite en RDC le 10 août. L'UDPS s'émeut du fait que le président sud-africain donne l'impression qu'il a déjà choisi son camp. En Tanzanie, tous les habitants du village de Ngolo, situé dans le sud du pays, vont être arrêtés. La police les accuse d'avoir délibérément détruit des canalisations d'eau vers une autre localité de la région de Mbeya. Albert Chalamila, le gouverneur, a donc ordonné que tous les habitants soient arrêtés, quel que soit leur état ou statut social en raison de ce sabotage. Il faut savoir que le village compte près de 1600 habitants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, critiqué par le président Donald Trump, des centaines de journaux ont répondu en publiant des éditoriaux pour insister sur l'importance de la liberté de la presse. Le point avec Yakutba Ouedraogo.
Mené par le Boston Globe sous le mot d'ordre « ennemi de personne », plus de 200 groupes de presse ont dénoncé les attaques du président Trump contre les médias, qualifiant de « fake news » tout organe de presse qui publie des informations qui lui déplaisent. Donald Trump n'hésite pas à traiter les médias d'ennemis du peuple. Ce matin, il a encore qualifié de parti d'opposition les médias qu'il appelle « fake news ». D'après le Boston Globe, cette attitude du président américain à l'égard des médias encourage ses homologues comme le russe Vladimir Poutine ou le turc Recep Tayyip Erdogan à traiter les journalistes comme des ennemis. Le New York Times, souvent cible des invectives présidentielles, a publié un éditorial sous un titre en lettres capitales, je cite « La presse libre a besoin de vous », fin de citation. Pour les défenseurs de la liberté de presse, les déclarations de M. Trump vont à l'encontre du premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression.
Toujours aux USA, les délibérations du jury ont débuté dans le procès pour fraude fiscale et bancaire de l'ex-chef de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, premier à se retrouver sur le banc des accusés dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe du procureur Robert Mueller. Et puis la légende américaine de la soul, Aretha Franklin, interprète d'immenses succès et combattante inlassable des causes du féminisme et des droits civiques, nous a quittés aujourd'hui à 76 ans. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Ethiopian Airlines a atteint un record d'activité de bénéfices entre 2017 et 2018. Le nombre de ses passagers a augmenté de 10% et a franchi la barre symbolique des 10 millions d'individus. Le transport de marchandises a progressé de 18% pour atteindre 400 339 tonnes. Le bénéfice net s'est élevé à 245,6 millions de dollars avec une croissance de 43% de revenus d'exploitation. La compagnie dispose d'une flotte de plus de 100 aéronefs et compte totaliser 150 appareils d'ici 2025. Les économies du COMESA perdent chaque année plus de 17,5 milliards de dollars. À l'origine, la négligence des réformes et de facilitation du commerce numérique, l'Érythrée, l'Égypte, le Soudan, la Libye et l'Éthiopie possèdent le plus grand potentiel d'exportation intra-COMESA pour la région. Le Kenya, Madagascar, Maurice et le Rwanda sont les seuls pays les plus en avance du COMESA dans l'application des réformes du commerce électronique. La Chine veut construire un réseau ferroviaire entre le Zimbabwe et le Mozambique pour 2,5 milliards de dollars. Le projet Trans-Zambezi devra traverser aussi la Zambie, tributaire du fleuve Zambèze. La première phase est de 400 km entre Shamva au Zimbabwe et Moatize au Mozambique et s'étendra ensuite sur plus de 900 km jusqu'au port de Nachala. Enfin, plus de 1700 km pour relier la ville de Binga à la frontière zimbabwéenne au port zambien de Nachala.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, élimination du Nigeria.
Oui, les Nigérianes battues 2-1 par les Espagnols ce soir en quart de finale de cette Coupe du monde. Aitana avait ouvert le score pour la Roja et Patri avait doublé la mise avant la pause. Efi avait réduit le score en seconde mi-temps, mais c'est insuffisant pour les Nigérianes qui sont éliminées. Les autres matchs ce jeudi, France, Corée du Nord, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, Japon.
La France au sommet du classement de la FIFA.
Plus 6 places pour les champions du monde 2018 qui sont premiers de ce classement FIFA nouvelle règle. La Belgique gagne une place et se retrouve deuxième. Le Brésil est éliminé en quart de finale de cette Coupe du Monde et troisième. Très forte progression des Croates, vice-champions du monde. Ils gagnent 16 places pour se retrouver quatrième. L'Argentine moins 6 places et onzième. Dégringolade de l'Allemagne éliminée dès le premier tour, moins 14 places. Les Allemands sont désormais 15e. Tunisiens et Sénégalais sont 24e. Quatrième ex-aequo, ils sont les premiers pays africains.
Le Real Madrid, sans Ronaldo ni Zidane, perd sa première place.
Mené 2-1, l'Atlético Madrid est parvenu à s'imposer 4-2 après prolongation et remporté hier soir la Super Coupe d'Europe face au Real Madrid. Les Colchoneros qui pourront notamment remercier Diego Costa, auteur d'un doublé. Ça va mal pour les Merengues entraînés par Lopetegui. Première défaite en finale, évidemment, en l'absence de l'ancien entraîneur Zinedine Zidane et de la star Cristiano Ronaldo, parti, vous le savez, à la Juventus Turin.
La Liga, justement, qui s'exporte aux États-Unis.
Oui, un match du championnat d'Espagne de football va être délocalisé aux États-Unis. C'est une première annonce de la Ligue espagnole de football professionnel qui s'est aussitôt attiré les foudres du syndicat des joueurs et des groupes de supporters qui dénoncent une aberration. Selon le site internet du quotidien espagnol El País, la Liga a pour projet d'organiser un match aux États-Unis dès cette saison qui débute demain. L'affiche en question pourrait impliquer soit le FC Barcelone, soit le Real Madrid.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta rempile pour un second mandat de 5 ans à la tête du pays. Selon les résultats officiels provisoires, il a obtenu 67% des voix contre 33% pour Soumaïla Cissé. Les partisans de l'opposant rejettent les résultats et promettent de les contester par tous les moyens démocratiques. Pour une analyse, Abdourahmane Dia, adjoint à Bamako, le journaliste Alexis Calambry.
Jusqu'au premier tour, en tout cas, c'était une surprise dans ce sens que, au vu de tout ce qui se passait dans la pré-campagne, on se serait dit que ça ne serait pas facile et que ce n'était pas évident.
Il a obtenu 67% des voix selon les résultats officiels provisoires. C'est moins qu'en 2013 et un taux de participation également très faible. Qu'est-ce que cela peut signifier pour ce président à l'entame de son second mandat?
Oui, deux choses. Effectivement, pour son premier mandat, il a eu 77%. Il y avait une forte attente, il y avait beaucoup d'espérance et de façon générale, les espoirs ont été déçus. Cette fois-ci, pour beaucoup de gens, la cause est déjà entendue, ce qui a fait que beaucoup ne se sont pas déplacés et à la limite, on ne voyait pas d'alternative. Donc, je pense que oui, il y a une désaffection général qui a fait que les gens ne se sont pas déplacés et au deuxième tour, pour beaucoup de gens, la cause est déjà entendue. Ça, en tout cas, les partis n'ont vraiment pas mobilisé, ni au premier tour d'ailleurs. Donc, pour beaucoup, il n'y avait plus d'enjeu. Pour d'autres, on s'est battu pendant le premier mandat, on n'a pas eu satisfaction. Et voilà, donc, pour eux, il n'y a pas un nombre de changements. C'est pour ça que je pense à la majorité, ça n'a pas bougé.
Il va avoir pratiquement les mêmes défis. Je pense notamment à la mise en application de l'accord d'Alger avec les groupes armés. Il y a également la crise économique.
Pour réussir tout cela, il y a un nouveau défi qui s'ajoute, qui est celui de la réconciliation et du dialogue national. Il faut qu'il soit capable de parler avec et ses adversaires et tous ceux qui l'ont soutenu, ceux qui ont été neutres.
Le candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé, crie à la fraude et estime avoir gagné le second tour. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une crise post-électorale au Mali?
Non, je ne crois pas. La spécificité du Mali, ce sont tous ces ressorts sociaux. Vous avez les religieux, vous avez les castes, les griots qui ont commencé toute la médiation, je dirais même au-delà de la médiation, toute la pression sociale pour qu'on aille à la calmie. Je pense que même s'il y a soubresaut, ça va rester dans le verbe et ça n'ira pas loin.
C'était le journaliste malien Alexis Calambry.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
250 millions de francs CFA, c'est le montant de la caution que pourrait désormais payer tout candidat à une élection présidentielle au Bénin, selon une proposition de réforme du code électoral. La proposition attend un éventuel vote en plénière de l'Assemblée. Les détails sur cette proposition avec la correspondante de VOA Afrique à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
De 15 millions de francs CFA en 2011 et 2016, le montant de la caution à payer par tout candidat à l'élection présidentielle au Bénin pourrait désormais passer à 250 millions de francs CFA. La proposition qui émane des députés de la majorité présidentielle a déjà pris l'aval de la commission des lois. Il ne reste que le vote en plénière pour rendre cette réforme effective. Pour le député Guy Mitokwe, membre de la commission des lois, cette réforme est une véritable incongruité.
Gérer une république, je pense que c'est pas faire des calculs d'épicier. On ne peut pas confier la tâche d'être président qu'aux riches. Il n'y a pas que les riches qui soient intelligents. Ce n'est pas une république de casino. Pour que les seules choses qui puissent compter puissent être de l'argent. Pour moi, ce n'est pas une réforme, c'est une incongruité.
En 2011, les députés avaient déjà voté une augmentation de la caution à la présidentielle. 100 millions était la somme proposée contre 5 millions de francs CFA. Aujourd'hui, 250 millions reste une somme colossale. Même pour certains partis politiques de la majorité présidentielle, une telle caution ouvre la porte à toutes sortes de personnes. L'autre Khouinou est le président du Parti des valeurs républicaines.
Il y a des gens sérieux pour gouverner nos États, mais puisqu'il n'y a pas de l'argent, il ne peut pas compétir. Cette réforme-là ne va pas prospérer. Ça va faire beaucoup de mécontents dans le pays. 250 millions. Il y a des renégats, il y a des gens qui constituent des gangrènes dans la société, mais puisqu'ils ont de l'argent, ils vont envoyer les 250 millions, ils trouveront des milliards pour acheter les consciences et malheureusement, ils seront alors portés à la tête du pays.
Beaucoup comptent sur la clairvoyance des députés pour barrer la voie à une telle loi discriminatoire pendant la plénière. D'autres, par contre, estiment que les députés ont appris à voter des lois par achat de conscience. Le député Gérard Guenotti estime qu'il n'y a pas au Parlement des députés qui votent de façon fantaisiste sans tenir compte de l'intérêt supérieur de la nation.
Ce serait très malsain de prendre l'argent avant d'exprimer mon vote. Là, je n'existe plus. Et je ne vois pas quel député pourrait accepter cela. Moi, je vote librement. Les lois, j'analyse selon ma libre conscience et je vote selon l'intérêt supérieur de la nation et selon ce que ma conscience me dit.
Les jeunes seraient les plus gros perdants de ces réformes qui s'opèrent sur le plan politique. En effet, quel jeune pourrait trouver 250 millions de francs CFA dans un pays où le SMIG est à moins de 50 000 francs? Le sociologue Raymond Noutaï pense que cela s'explique par le fait que la jeunesse béninoise, depuis des lustres, se laisse acheter aux plus offrants.
Quand les jeunes se lèvent là, ils disent « Nous appelons telle personne avec un gars » parce que juste, on les a donné de l'argent pour aller parler sans conviction. Parce qu'il y a de l'argent, il faut qu'aujourd'hui, on aille dire ceci à la télé pour, après avoir distribué un peu aux gens, que ça réserve, qu'on prenne le reste. C'est décevant.
L'augmentation de la caution concerne aussi les élections législatives. Il est proposé que chaque liste de candidature paye désormais 200 millions de francs CFA. L'idée serait de jeter un coup de balai dans le rang des partis politiques qui, à la date du 30 mai 2017, étaient déjà au nombre de 106 régulièrement enregistrés. C'est sans compter avec les dizaines autres naviguant dans l'illégalité. Cotonou, Ginette Fleur, Adandé pour VOA Afrique.
Au Mexique, de la frontière sud avec le Guatemala jusqu'à la frontière nord avec les États-Unis, des migrants tentent de rentrer au pays de l'oncle Sam, souvent au péril de leur vie. Le point avec Irénée Herman Umbo.
Sur cette carte géographique, Santos Delgado indique son parcours depuis le Guatemala jusqu'ici au Mexique. Il pointe du doigt sa destination finale, les États-Unis. Ils sont plusieurs dizaines, des hommes, souvent jeunes, certains déjà plusieurs fois expulsés des États-Unis, des femmes voyageant parfois avec des enfants en bas âge ou enceintes à se retrouver ici, dans ce centre pour migrants, espérant un jour traverser la frontière pour se rendre en territoire américain.
Je suis fier d'être un migrant parce qu'il y en a beaucoup désormais. Il y a des communautés d'immigrants dans le monde entier et nous en sommes très fiers.
Ils sont tous obsédés par le rêve américain. Sans passeport ni visa, ils veulent tous atteindre le même objectif, quelles que soient les difficultés à affronter. Sandra Hernandez a laissé deux enfants au Honduras pour entamer ce périlleux voyage chez le voisin du Nord avec sa fille de 4 ans, Danaya. C'est la première fois qu'elle tente la traversée vers le rêve américain, mais elle n'a pas pu atteindre sa destination.
Si en tant que migrant, vous ne faites pas vous-même cette expérience, vous ne saurez jamais combien les autres ont souffert en essayant d'atteindre les États-Unis. Comme toujours, vous devez essayer de voir où vous vous sentez le mieux.
Sandra compte repartir avec sa fille, mais elle a peur d'être séparée d'elle une fois aux États-Unis. Maquila Diaz est originaire de Chiapas, l'état le plus pauvre du Mexique. C'est la troisième fois cette année qu'elle tente de franchir la frontière pour rejoindre son mari, qui vit clandestinement de l'autre côté depuis 2 ans. Elle n'a sur elle aucun objet personnel, ni un sou en poche. Des vêtements lui ont été donnés dans ce refuge pour migrants.
Comme nous manquions de nourriture et d'eau, comme la deuxième fois que j'ai traversé le désert, eh bien, je me suis rendue moi-même.
Andrés a été détenu durant 2 mois après avoir tenté de franchir la frontière américaine avec un faux visa de touriste vendu par un passeur pour 3 500 $. Mais le document avait été déclaré volé. Il ne sait pas s'il va essayer de traverser à nouveau parce que la prochaine fois, il risque d'aller en prison. Sur lui, il n'a qu'une Bible et un portefeuille en plastique. Pour l'heure, cet ouvrier mexicain de Puebla, comme plusieurs autres aspirants au rêve américain, attend dans ce refuge tenu par un prêtre.
La La chanteuse noire américaine Aretha Franklin, interprète de grands succès comme Respect, est décédée à son domicile de Détroit à l'âge de 76 ans. Le parcours d'une étoile dans l'histoire sombre de la communauté africaine-américaine des États-Unis avec Idriss Fall.
La reine de la soul, Aretha Franklin, avait été diagnostiquée d'un cancer en 2010 et recevait depuis plus d'une semaine des soins palliatifs à son domicile de Detroit. Elle restera comme l'interprète inoubliable de Respect, devenu l'un des hymnes du mouvement pour l'égalité des Noirs et des femmes aux États-Unis. Ce tube composé par Otis Redding lui offrira en 1967 ses deux premiers Grammy Awards sur les 18 qui vont jalonner sa carrière. Née le 25 mars 1942 à Memphis, dans le Tennessee, Aretha Louise Franklin est la fille d'un prêcheur baptiste et d'une chanteuse de gospel. Ses parents vont s'installer à Detroit, dans le Michigan. La maison familiale accueille souvent des musiciens comme Mahalia Jackson et le pasteur Martin Luther King, emblème du mouvement des droits civiques des Noirs. Le décor est déjà planté pour l'enfant qui apprend seul le piano et chante à l'église. À 14 ans, elle enregistre son premier titre. Elle signe en 1960 avec Columbia, mais ne connaîtra la gloire qu'avec son premier album avec Atlantic en 1967. I Never Loved the Man. Vont s'enchaîner, se multiplier et toujours plus envoûtant et plus entraînant les uns les autres. You make me feel, you make me feel like a natural woman. Aretha Franklin est restée toute sa vie une femme noire. Engagée, elle a chanté à l'enterrement de Martin Luther King, assassiné en 1968 et ami personnel de son père. En 2005, elle a reçu du président George W. Bush la médaille de la liberté, la plus haute distinction américaine pour un civil. Et en janvier 2009, elle a aussi chanté pour l'investiture de Barack Obama, premier président noir des États-Unis, pendant une cérémonie chargée d'émotions. Amazing Grace, un de ses titres fétiches.
Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Sims Loumami. À la console, Wojtech Journiak. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Et en écoutant ce très beau morceau d'Aretha Franklin, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.